Merci. Oui, bien bonjour, bon matin. Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine du vendredi 27 octobre. Avec moi, autour de Anne Brunet, bonjour.
Bonjour Hélène.
Et Mathieu Tessier à la régie, bonjour Mathieu.
Bon matin.
Et voilà. Alors, nous allons vous présenter quelques sujets d'aujourd'hui. Catherine, où nous amenez-vous aujourd'hui?
Je vais poursuivre la lecture de Nouveaux projets, qui est ce magazine qui nous aide à s'informer, qui est là 4 fois par année. Et je vais vous parler un peu de consommation ce matin. Je vais vous parler d'histoire aussi au Québec et un petit peu d'électrification des transports.
Des sujets fort intéressants. Merci, Catherine. Pour ma part, je vous demande pardon. Pour ma part, je vais vous amener dans plusieurs petits sujets comme, je pense que c'est le moment d'en parler. Est-ce qu'on peut être évincé ou pas? Je vais vous parler d'un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Il s'appelle Suicide Action Montréal. Mm-hmm. Et aussi, vieillir gay dans la dignité. Alors, nous vous revenons dans quelques instants.
Alors, dans chaque numéro de Nouveaux projets, parfois on nous offre des articles de magazines qui ont été traduits. Cette fois-ci, c'est un article de Jean-Laurent Casselli qui est publié en février 2017 dans le magazine d'actualité en ligne Slate.fr. Et l'article parle de consommation, ça s'appelle « Dis-moi ce que tu consommes, je te dirai ce que tu es ». Le responsable du développement durable d'IKEA a fait sensation l'année dernière quand, en conférence, il a annoncé que le monde était arrivé à son pic d'objets, en référence au pic de pétrole, soit le moment fatidique où le nombre d'objets que nous avons déjà consommés est supérieur à celui qui nous reste en stock. Une déconsommation inédite dans l'histoire des choses. Plus troublant, la consommation de certaines denrées alimentaires serait également en recul, si l'on en croit les chiffres annoncés en ce début d'année par plusieurs institutions en mesure. En 2016, les achats de produits frais et de grande consommation auraient légèrement diminué en France. Les consommateurs seraient plus sobres, moins d'alcool, plus végétariens, moins de viande, et plus sceptiques, moins de produits laitiers. Serait-ce la fin de la société de consommation? Plutôt celle d'une certaine consommation, centrée sur l'accumulation de biens matériels. Car la consommation s'est depuis déplacée vers les expériences et l'immatériel. En tout cas, sous certaines latitudes et dans certains groupes sociaux privilégiés. Le sociologue Dominique Desjeux, professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université Paris-Descartes et spécialiste de la consommation, passe beaucoup de temps dans les économies de rattrapage où émergent de nouvelles classes moyennes. Une des aspirations de ces classes moyennes inférieures dans la plupart des pays émergents reste d'obtenir des livings, des tables, des chaises et une cuisine avec électroménager, remarque-t-il. Habitué à étudier les consommateurs au Brésil, en Turquie, en Chine, le chercheur se penche d'abord sur les biens matériels. Je regarde le secteur électroménager, aspirateur, réfrigérateur, machine à café, parce que le café est un grand indicateur statuaire des classes moyennes dans beaucoup de pays où le thé est la boisson de base. À l'inverse, chez les classes moyennes des pays équipés depuis longtemps, les biens matériels restent toujours un signe distinctif, mais leur statut est baissé. Il y a 40 ans, manger du saumon, c'était l'hyper-luxe. Aujourd'hui, on peut en manger tous les jours. Les biens matériels subissent une sorte de décode en devenant communs. Le statuaire se déplace vers les services. Il faut donc utiliser d'autres indicateurs pour repérer les différences de statuts sociaux. Je cherche 3 choses pour savoir s'il y a des classes moyennes dans une ville ou un quartier. Des services de type Vélip, un système de vélo libre-service, des salles de sport et des rayons d'alimentation pour animaux domestiques dans les supermarchés. Dans un essai paru il y a plus de 10 ans, « Le bonheur paradoxal, essai sur la société d'hyperconsommation », le philosophe Gilles Lipovetsky s'amusait déjà de ces contradictions qui émergeaient. Tout semble opposer diamétralement la conception du bonheur matériel et celle du bonheur spirituel. car l'une met l'accent sur l'acquisition des biens marchands, l'autre sur le perfectionnement de la conscience. L'une donne la priorité à l'avoir, l'autre à l'être. Cela dit, ajoute-t-il, on n'attend pas de ces philosophies qu'elles nous dépouillent de notre moi envahissant ou nous délivrent de nos vains appétits, mais au contraire qu'elles nous procurent tout à la fois réussite matérielle et paix intérieure, santé et confiance en soi, puissance et sérénité, énergie et tranquillité. Autrement dit, le bonheur intérieur sans qu'il y ait besoin de renoncer à quoi que ce soit d'extérieur, confort, succès professionnel, sexe, loisirs. On passe de plus d'une méthode à l'autre, d'une école de pensée à la suivante, selon une attitude finalement très consumériste. Dans son essai d'histoire économique « Le monde est clos et le désir infini », Daniel Cohen souligne le trait le plus angoissant de la nouvelle société de consommation. Pour inégale qu'elle fût, la société industrielle régulait la question de la concurrence entre les individus en fabriquant la promesse d'une société d'égalité grâce à l'accès aux biens matériels, tout en maintenant une organisation hiérarchique de la production qui laissait chacun à sa place. Les individus étaient inégaux en tant que travailleurs, mais pouvaient espérer faire partie d'une vaste classe moyenne de consommateurs en achetant un logement, des biens électroménagers et une ou deux voitures. Ces biens matériels se sont généralisés et banalisés, et la compétition sociale s'est rapportée sur d'autres terrains. La caractéristique nouvelle de la société qui lui succède est qu'elle perd progressivement l'élément médiateur qu'est la marchandise pour ne plus devenir qu'une société de communication. Dans cette nouvelle société des signes, les biens rares, désirables, sont ceux que le progrès technique ne peut pas offrir. Les relations sociales, les appartements les mieux placés, les meilleures écoles pour les enfants, des lieux de villégiature agréables, etc. La nouvelle société de consommation a encore de beaux jours devant elle.
Catherine, pouvez-vous nous rappeler la source de votre lecture?
Alors, c'était dans Nouveau Projet, mais c'est un article qui est paru dans le magazine d'actualité en ligne Slate.fr. C'est une traduction de Marie-Claire Forté que vous allez retrouver dans le magazine Nouveau Projet de cette édition.
Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec un très, très beau texte que j'ai trouvé dans la revue Virage, écrit par Sophie Gagnon. C'est sur le volet tendance. Et ça s'intitule « Pour que vieillir soit gai ». Donc, vieillir gai dans la dignité. Il y a 1,5 million d'aînés de 65 ans et plus au Québec, et 10 d'entre eux sont gays ou lesbiennes. Pourtant, ils sont quasi invisibles. Certains ont toujours vécu leur homosexualité sous le manteau, d'autres sont carrément rentrés dans le placard au moment d'aménager en résidence de crainte de subir de l'homophobie. En effet, tout reste à faire pour assurer aux gays et lesbiennes déjà âgés, une dernière étape de vie à l'abri de l'homophobie. Cette attitude de rejet et de discrimination envers les LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et transgenres, des résidences et CHSLD pour tous. Afin d'informer et de sensibiliser la population aux réalités de ces personnes, la Fondation Émergence, une organisation sans but lucratif, dédié au bien-être et à l'égalité des personnes, a mis sur pied le programme « Pour que vieillir soit gai ». Les fiches d'information de ce programme rappellent que si bien des batailles ont été gagnées ces dernières décennies, les personnes âgées d'aujourd'hui ont vécu leur jeunesse dans une société où l'homosexualité était encore un crime au Canada. La documentation énumère aussi diverses appréhensions des aînés qui sont gays, notamment celles qu'un futur milieu de vie, une résidence pour aînés ou un CHSLD leur soit hostile. Denise Veilleux, qui a milité toute sa vie pour les droits des gays et des lesbiennes, ressent cette crainte. En effet, elle se demande si le personnel et les bénévoles exercent aussi un essentiel rôle de vigie auprès des bénéficiaires, dont certains ne reçoivent guère d'autres visites que celles du livreur. Excusez-moi, juste un moment. Elle se demande, je suis désolée, elle se demande si son amoureuse, par exemple, et elle seront à l'aise au moment d'emménager dans une résidence pour aînés, où elles se retrouveront dépendantes d'un personnel qui présume que l'hétérosexualité, ce sont tous les résidents. Devrons-nous neutraliser notre environnement pour ne pas que des photos ou des souvenirs nous exposent à l'homophobie? Laisse tomber cette sexagénaire. Denise raconte donc, à titre d'exemple, il y a quelques années, lorsque sa conjointe d'alors a été admise dans une maison de soins palliatifs. Elle n'a pas bénéficié du réconfort du personnel, contrairement aux autres conjoints des personnes en fin de vie. Un sondage réalisé en 2016 dans le cadre de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie révèle d'ailleurs que 66 % des Québécois considèrent qu'il est difficile pour les personnes aînées homosexuelles de vivre ouvertement une relation amoureuse en centre d'hébergement pour aînés. 39 % des personnes de 50 ans et plus qui sont LGBT et plus ont déjà sérieusement pensé à s'enlever la vie. En outre, respecter le choix d'une personne aînée de dévoiler ou non son orientation sexuelle ou sa transsexualité est un des principes de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées mise de l'avant par la Fondation Émergence. C'est fondamental pour le maintien de la dignité, surtout pour les aînés plus âgés qui ont commencé à vivre leur orientation sexuelle à une époque de grande réprobation sociale où il était particulièrement exigeant de sortir du placard. De façon plus générale, ce contexte met en lumière les tabous persistants concernant la vie sexuelle de tous les aînés. Le plus tenace voulant que la majorité d'entre eux ait renoncé à toute forme d'expression de la sexualité. Selon cette logique, puisque les personnes homosexuelles sont d'abord définies sous l'angle de l'acte sexuel, leur homosexualité se dissiperait en vieillissant, ce qui, bien sûr, est faux. Les préjugés réducteurs à l'endroit des aînés, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels ou transgenres ou transsexuels, influencent les pratiques. Le droit des couples aînés à l'intimité et même à vivre dans le même établissement est souvent bafoué. On fait ainsi fi de l'importance des sentiments amoureux et affectifs pour tous les aînés, qu'ils soient actifs ou non sexuellement. Le mode d'emploi pour faire non à l'homophobie. Il ne fait aucun doute des efforts de sensibilisation doivent cibler les personnes qui œuvrent auprès des aînés ou les côtoient de façon à créer des milieux de vie inclusifs. D'où l'importance du programme pour que vieillir soit gay de sa pièce et de sa pièce de résistance, c'est-à-dire la charte de la bientraitance envers les personnes aînées. Elle se décline en 11 principes prônant un traitement égalitaire pour tous les aînés et le droit de LGBT de vieillir dans la dignité, dans un environnement exempt d'homophobie.
J'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. Mon cœur il est rempli, et toi, je te trouve tellement jolie, je t'aime.
I love you.
Si tu veux un rendez-vous, mais moi, je serai doux, 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 forever.
Pour toujours.
Viens dans mes bras, ma petite. Je veux pas que cet amour se gaspille. No, oh, j'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. Généreux, je te donnerai tout ce que tu veux. Je t'aime.
I love you.
Ensemble, on pourrait s'amuser. Automne, hiver, printemps, été, forever. tu me dis que l'amour n'existe pas. Regarde dans mes yeux, dis-moi ce que tu vois. Wow, wow, j'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner.
Plein d'amour.
J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour.
Damien Robitaille et sa chanson « Plein d'amour ».
Oui, rebonjour. Alors, nous continuons avec Catherine.
Oui. Alors, je poursuis ma lecture dans « Nouveau projet » et c'est un article de Pierre-Olivier Pinault. Ça s'appelle « Vendre du tofu dans un steakhouse » ou « L'illusion du transport électrique dans une société de plus en plus éprise de gros véhicules ». On dit souvent que l'électrification du transport est une bonne idée. Après tout, ce secteur ne constitue-t-il pas le plus important consommateur de pétrole et le plus grand émetteur de gaz à effet de serre? Le gouvernement québécois en est lui aussi convaincu, au point d'encourager, par des subventions, l'achat de véhicules électriques. Entre janvier 2012 et janvier 2017, le programme Rouler électrique a ainsi distribué 103 millions de dollars à des constructeurs automobiles afin qu'ils baissent le prix de vente des véhicules entièrement ou partiellement électrique. Environ 27 000 acheteurs ont pu bénéficier de ces subventions, garnissant nos routes et stationnements de 14 600 véhicules hybrides, de 7 000 véhicules hybrides rechargeables et de près de 5 500 véhicules électriques supplémentaires. Commençons-nous, pour autant, à nous affranchir du pétrole? Malheureusement, non. Entre 2012 et 2016, les ventes d'essence sont passées de 8,9 à 9,7 milliards de litres. Pourquoi? En grande partie parce que les Québécois achètent toujours plus de grosses automobiles, dépensant des sommes qui font paraître ridicules les 103 millions de dollars de subventions. Regardons-y de plus près. Les achats de véhicules neufs représentaient 12 milliards de dollars en 2012 et 16 milliards de dollars en 2016. Les voitures sont moins populaires d'une année à l'autre. 240 611 unités vendues en 2012 contre 198 528 en 2016. À l'inverse, dans la catégorie camion de Statistique Canada, qui inclut un petit nombre de poids lourds, beaucoup de camionnettes et de VUS, les ventes ont cru de 46 %, passant de 182 465 unités à 266 443. En somme, alors qu'on a subventionné l'achat de 27 000 véhicules verts en 5 ans, plus de 2 millions de nouveaux véhicules ont été vendus au Québec. Parmi ceux-ci, la moitié sont des camions, des VUS ou des fourgonnettes. Visiblement, le programme n'est pas de taille à contrer l'affection des Québécois pour les gros véhicules, qui sont aussi les plus énergivores. Les grands gagnants de cette mesure gouvernementale, les constructeurs automobiles qui se drapent dans une image verte tout en augmentant leurs revenus grâce à des fonds publics, argent qui aurait pu être investi dans l'amélioration du transport en commun, par exemple, bien plus efficace dans la lutte contre les changements climatiques. On peut comparer cette stratégie environnementale à une campagne de promotion du tofu dans les steakhouses. Un rabais pour les mangeurs de soya, aucune contrainte pour les amateurs de viande rouge. Personne ne s'étonnera donc de l'inefficacité relative de cette mesure, dont le principal effet est d'enrichir une industrie offrant à la fois du tofu et du steak. On n'y échappera pas. Pour avoir un effet positif sur le climat, il nous faudra modifier radicalement nos habitudes de consommation au lieu de simplement changer de carburant.
nous sommes de retour, Hélène Bédard au micro. Je vais vous entretenir de douleurs liées à votre état émotionnel. Les émotions peuvent aggraver des douleurs existantes ou être à l'origine de certaines douleurs. C'est ce qu'on appelle la somatisation. Une émotion trop forte, si elle est refoulée, va s'exprimer par le biais du corps. L'expression « en avoir plein le dos » n'existe pas par hasard. Les personnes souffrant de maux de dos ont souvent une lourde charge psychique à porter au quotidien. Poids de responsabilité, accumulation de la charge de travail, problèmes personnels, etc. Évidemment, des exercices de détente et de relaxation favoriseront la détente des muscles dorsaux. Mal de tête. Les maux de tête sont souvent reliés au stress. Il peut s'agir de céphalées de tension, et celles-ci se traduisent par une douleur au niveau de la nuque, des tempes et du front. Elles couvrent une large partie de la tête qui donne un effet de casque. Prendre des antalgiques, du repos, une bonne hydratation favorise, dit-on, leur guérison. Mal au ventre. L'estomac, qu'on appelle le deuxième cerveau, depuis la découverte de 200 millions de neurones dans le système digestif, est l'épicentre de la psyché. La douleur survient en cas d'incapacité à digérer un événement. Celui-ci devient alors traumatisme et creuse le nid des maux de ventre chroniques. Si les examens de santé ne révèlent rien d'anormal, il est donc conseillé d'entreprendre peut-être une psychothérapie pour le soigner. Mal dans les muscles. Ceux-ci sont relatifs à la souplesse et à la flexibilité. En général, les douleurs musculaires révèlent qu'un effort trop intense et brutal a eu lieu. Mais elles peuvent aussi, en cas d'absence d'exercice physique, être causé par une maladie chronique ou par des émotions refoulées. Il est donc conseillé d'être plus laxiste face à la vie et d'accepter ou de ne pas toujours pouvoir contrôler la situation. Passons aux maux de dents. Les rages de dents ou les douleurs aux gencives traduisent, sur le plan psychique, une incapacité à prendre des décisions importantes dans la vie et surtout à les exprimer. La zone buccale étant la zone de la parole par excellence. La difficulté à communiquer peut provoquer des maux de dents et « dedans » étant comme à l'intérieur, qui renvoient à l'intériorité du corps puisque les mots n'ont pas pu ou su être exprimés. Avoir mal aux mains, c'est lié à la sphère relationnelle dans le registre psychosomatique. Tension, douleur, rigidité montrent la difficulté d'être au monde, l'incapacité à donner, à prendre ou recevoir, car la volonté de contrôle et de maîtrise est plus forte. Les poings constamment serrés qui donnent lieu à une arthrose précoce indiquent d'ailleurs cet état de repli sur soi sans volonté de communication extérieure. Le cou maintenant. Le cou fait le lien à la tête, entre la tête et le corps, soit entre le monde des idées et celui de l'action. Des douleurs au cou peuvent révéler une incapacité à extérioriser ses idées et à les mettre en œuvre. Les tensions et les blocages de la nuque, comme les torticolis, expriment ainsi le conflit entre la réalité et les désirs profonds qui n'arrivent pas à cohabiter, d'où cette sensation d'empêchement, à commencer par la propre mobilité de son cou. La douleur aux épaules peut signifier que quelque chose ou que quelqu'un est trop lourd à porter. Un fardeau émotionnel invisible pèse au quotidien sur les épaules. Il est nécessaire dans ce cas de chercher à alléger sa vie en se recentrant sur les choses essentielles de son bien-être. Si l'on est une personne aidante, il convient de se faire aider soi-même afin de se décharger. Mal à la hanche ou aux deux hanches. Avoir une douleur à l'une des deux hanches ou des deux signifie une incapacité à aller de l'avant ainsi qu'une grande résistance au changement. Peur de perdre ses repères, peur de perdre des décisions importantes, peur de les prendre aussi. Avoir mal à la hanche empêche les déplacements et la latitude des mouvements. Il est conseillé dans ce cas de lister ses peurs afin de se recentrer sur ses envies sans que cela ne soit effrayant. Et pour terminer, je vais vous parler du mal de genou. Le genou est une articulation très mobile qui va de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, de gauche à droite et de droite à gauche. Avoir mal au genou, à condition, évidemment, que la douleur ne soit pas d'origine traumatique, restreint la liberté de mouvement et traduit un certain manque de souplesse, à l'instar du roseau qui plie mais ne se rompt pas. Lâcher prise et accepter la tournure des événements sans résistance, réduit donc ses douleurs. Un texte de Audrey Dulieu dans la revue Passeport Santé. Je vais vous entretenir de être ou ne pas être évincé. C'est un texte de, ici qui est paru à Chacun ses droits. J'aimerais vous résumer les dispositions de la loi qui modifie le Code civil afin de protéger le droit des locataires aînés, une loi qui a été adoptée en juin 2016. Le locataire, il est protégé d'une éviction si lui ou son conjoint est âgé de 70 ans ou plus. S'il occupe le logement depuis au moins 10 ans, si son revenu est égal ou inférieur au revenu maximal lui permettant d'être admissible à un loyer modique. Le propriétaire, il peut néanmoins reprendre le logement s'il est lui-même âgé de 70 ans ou plus et désire reprendre le logement pour s'y loger. Si le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus, et si le propriétaire est un occupant âgé de 70 ans ou plus qui souhaite loger dans le même immeuble que lui, un bénéficiaire âgé de moins de 70 ans. La loi procure une protection accrue aux locataires aînés contre la discrimination basée sur l'âge. C'est un texte paru dans la revue FADOC qui résume la situation. Nous allons devoir vous quitter pour une pause. Restez avec nous. Nous poursuivrons avec le deuxième volet dans un moment.
Tu pleures. Tu dis que t'as peur du bonheur, que les larmes dans tes yeux ne sont que ton vieux cœur qui fond. Mais si tu mouilles mon lit, moi je dis tant mieux. Quand il pleut, c'est un peu le printemps. Tant pis pour ceux qui préfèrent l'hiver. On va monter le calorifère, faire grimper la température. On va faire couler la chamelure, faire décoller la peinture. Laisse tes larmes tomber sur le calorifère. Le calorifère. Tu pleures, tu dis que janvier ça t'écœure. Y'a des arbres de Noël, des poubelles, puis fait noir à 4 heures. Mais quand s'étire la nuit, moi je dis tant mieux. Y'a un feu qui brûle dans nos ventres et remplit nos yeux de copeaux de lumière. Monter le calorifère, faire grimper la température. On va faire couler la chamelure, faire décoller la peinture. Laisse tes larmes tomber sur le calorifère.
calorifère. Le calorifère. Philippe B, sa chanson Calorifère que l'on retrouve sur son album Ornithologie la nuit.
Oui, eh bien, nous sommes de retour. Hélène Bédard, Catherine Brunet et Mathieu Tessier. Voici, Catherine va continuer.
Oui, on s'en va dans la partie Histoire des mouvements sociaux. C'est toujours dans le magazine Nouveau Projet. C'est un article de Marc-André Cyr, qui est historien, qui participe fréquemment à la revue. Et son article cette semaine, ou plutôt cette édition, parce que le nouveau projet, comme je vous disais, ça, c'est 4 fois par année. Alors, ça s'appelle « Tricophile, la couture sans patron ». Écrire l'histoire plutôt que de la subir, c'est ce qu'ont fait les travailleurs de Tricophile en prenant le contrôle de leur usine qui menaçait de fermer. Retour sur l'une des plus importantes expériences d'autogestion ouvrière au Québec. Étrangement, il n'existe aucune synthèse historique au sujet des coopératives au Québec. Pourtant, si notre passé possède une singularité, c'est bien au sens de ces expériences collectives qu'elle se trouve. L'histoire de Tricophile en est un bon exemple. En juillet 1972, la direction de la compagnie de textile Regan Knitting Mills Limited, ou LIT, formule ainsi les choses. Elle fermera ses portes ou mettra 310 personnes à pied, sur un total de 530. Le syndicat réplique illico avec un appel à occuper l'usine. C'est qu'il n'en est pas à ses premiers combats. Chacune des mesures visant à faire respecter la dignité des travailleuses et travailleurs a été gagnée de hautes luttes. Par exemple, à l'issue d'une grève de 5 mois en 1963 pour l'obtention de meilleurs salaires. Ici comme ailleurs, le secteur du textile, avec ses payes de misère, son sexisme, ses horaires atypiques notamment, n'est pas réputé pour l'excellence de ses conditions de travail. L'occupation dure 3 semaines. Pour ceux qui y ont participé, elle a été un moment charnière, le déclic le plus fort chez les travailleurs, affirme Paul-André Boucher, qui sera de tous les combats de l'entreprise. Les ouvrières et les ouvriers découvrent leur propre usine et font la connaissance de leurs collègues, une solidarité que le taylorisme, idéologie du travail à la chaîne, tente précisément de prévenir en segmentant les tâches au maximum. L'occupation met fin à cet isolement, en plus d'éviter la fermeture immédiate de l'usine, qui sera toutefois annoncée à peine 2 ans plus tard. Là encore, les travailleuses et travailleurs ne se laissent pas abattre. Ils décident de repartir les machines sans patron. Il y a cependant loin de la coupe aux lèvres. Lorsqu'il s'agit d'émettre des prêts à des travailleurs, les institutions financières et les gouvernements sont hésitants. L'argent est toujours insuffisant, mais la solidarité populaire est au rendez-vous. Les communautés religieuses donnent beaucoup, de même que la population, directement sollicitée pour une intense campagne de porte-à-porte qui amasse à elle seule quelques 260 000 $. L'usine peut donc rouvrir. Les travailleuses et les travailleurs sont désormais les locataires de l'usine qu'ils louent à la compagnie. Les débuts sont loin d'être faciles, mais l'engagement de la communauté est réel. Paul-André Boucher raconte. Certaines personnes venaient à l'usine, le soir après leur travail, en même temps que les travailleurs qui étaient aussi bénévoles, pour teindre le tissu ou préparer nos premières fiches techniques de couleur. Jamais démenti, cette solidarité permettra d'ailleurs aux travailleuses et travailleurs d'acheter l'usine en 1976. Si les actions de la compagnie sont réparties entre l'État, le public et la société de développement économique, le pouvoir reste entre les mains des travailleuses et travailleurs, puisqu'ils possèdent à eux seuls le droit de vote aux assemblées d'actionnaires. Les cadres et les contremaîtres sont élus par l'Assemblée générale, qui détermine les grandes orientations de la compagnie et choisit les membres du conseil d'administration. Ce dernier doit compter un nombre minimum de femmes. La direction générale, elle aussi élue, veille à la bonne marche de l'entreprise. Tout comme le CA, Elle est surveillée par le Conseil des travailleurs, qui s'assure que les mandats établis au cours des assemblées générales soient respectés et que tous les membres soient informés des décisions courantes. Ce conseil veille même à former les travailleuses et travailleurs désireux de participer à la gestion de la compagnie. Les équipes de travail sont quant à elles chapeautées par les premières femmes et les premiers hommes de chacun des départements. Ces personnes ressources sont élues et révocables. Elles ont pour fonction de régler les problèmes et les conflits et de maintenir le lien entre les différents comités de gestion. Le fonctionnement démocratique de l'entreprise ne la soustrait évidemment pas aux aléas de l'économie mondiale. L'aventure de Tricofil débute précisément au moment où les 30 Glorieuses, caractérisées par une croissance économique importante, prennent fin. La mondialisation provoque une relocalisation massive du travail non spécialisé vers les pays les plus pauvres. En Occident, les belles heures du textile sont révolues. Après plusieurs plans de relance, Tricofil ferme en 1982. Une campagne de presse particulièrement malhonnête et l'absence de volonté politique réelle auraient eu raison du projet. Dans le contexte à l'époque, il fallait un sacré culot pour relancer une grande entreprise de textile sur le modèle de l'autogestion. Tricofil aura finalement été une bouée de sauvetage permettant à quelques 400 travailleuses et travailleurs de garder leur emploi alors que l'industrie coulait à pic. Et de vivre une expérience unique, dans une économie où régnait la hiérarchie, ils auront fait naître, pendant quelques années, un peu d'égalité et de créativité.
Et voici, nous sommes de retour. Je vais, Hélène Bédard, au micro, je vais vous lire un texte, un très beau texte que j'ai trouvé sur le site de Les Boomeuses. C'est un texte écrit par Minou Azoulay de octobre 2017. Ça s'intitule « Allô, ma fille ». Ma mère, elle est comme toutes nos mères, une vieille dame digne qui s'autorise à être indigne quand bon lui semble. Ma mère, comme tant d'autres, et comme pour répondre aux statistiques, elle vit seule. Veuve joyeuse ou éplorée, selon les jours. Ses copines sont trop vieilles, trop malades. Ah, son mari est encore vivant. Ah, oui, mais quel bougon dépressif qui ne s'intéresse jamais à elle et à ses états d'âme. Ma mère, la vôtre, a de l'arthrose, des rhumatismes, des jambes lourdes, des nuits blanches, des idées noires. Ses bobos sont un leitmotiv, une ritournelle quotidienne de nos coups de fil. Entre elle et nous, bien sûr, mais jamais avec ses fils. « Oh, je la connais très bien, vous aussi d'ailleurs. Elle appelle 3 fois par jour, alors que nous lui avons déjà parlé au petit matin pour savoir si elle avait passé une bonne nuit. Qu'est-ce que tu penses de ceci, de cela, si on allait boire un thé, ici, 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 ou peut-être déjeuner? » Une précision. Nos vieilles mamans appellent leurs filles, mais pas leurs fils. Connivence féminine, sans aucun doute. Pudeur à l'égard de ses fils devenus des hommes, certainement. Avec nous, elle peut balancer des remarques aigres douces ou quelques points de jalousie. Elle reste femme tout en maintenant les craintes de sa maternité, de sa jeunesse et de la nôtre. En jurant ses grands dieux qu'elle ne veut pas se mêler de notre vie, elle pose mille et une questions, régente nos existences et nos pensées. Ce qu'elle ne conçoit même pas avec les garçons. Face à eux, rester chic, digne et exemplaire. Question de génération. Aux femmes, les soucis quotidiens. Aux hommes, les grands problèmes du monde. Avec eux, elle est totalement mère poule. Mais c'est si insidieux que les fils ne s'en rendent même pas compte. Si elle ne veut pas paraître envahissante, elle n'en pense pas moins. La preuve. Elle se plaint de mon frère qui ne l'appelle jamais, qui ne l'amène pas souvent au restaurant, qui lui a promis un plombier pour son chauffe-eau. Elle ronchonne parce qu'il a encore changé de compagne. Évidemment, elle préférait l'autre. Et oui, précise-t-elle avec véhémence, les hommes ne sont plus les mêmes, ils changent de vie comme de pantalon, ils ne lui cèdent jamais la place dans le bus, ils abandonnent femme et enfant pour une jeunette. Oui, maman, mais ce n'est pas nouveau. Si, c'est nouveau, on peut avoir une maîtresse comme les hommes de ma génération et respecter sa famille. Elle ajoute, parce qu'elle adore M. Michel Drucker, elle dit donc, il a la même femme depuis toujours. Voilà un homme élégant, beau, gentil, fidèle. Et si les mères appelaient leur fille plus facilement pour masquer une certaine rancœur inconsciente contre tous les hommes parce que le leur est parti ou qu'il les ennuie, s'il est bien vivant. Mais revenons à ce Drucker, la boîte à people de nos mamans, leur boîte à rêves. Elles l'ouvrent et le couvrent de compliments pour mieux tisser leur roman intérieur, adoucir leur bobo, ne pas vieillir trop vite, trop mal, espérer plus tôt que de se souvenir. Si je parle à ma mère de boulot, retraite, traitement hormonal, acide hyaluronique, compléments alimentaires, elle pose de grands soupirs. Ces mots n'ont aucun sens pour elle. Ils appartiennent à un monde qu'elle ignore. Sa boîte bleue de crème Nivea lui suffit. Et enfin, j'adorais en faire une palette de Marelle. Elle est passée la fête des mères. Maman a râlé parce que son fils a oublié de venir ou de l'appeler si c'est le cas. Il est sourd, autiste ou à l'autre bout du monde. Votre cadeau ne lui a pas plu? Elle préfère que vous le changiez pour une autre couleur, un autre titre ou une meilleure fragrance. Peu importe. Ma mère, comme la vôtre, prend beaucoup de place. Mais si un jour, je ne la vois plus ou je ne l'entends plus, il me manquera mon noyau dur, ma colonne vertébrale, mon enfance tout entière. Parce que quand les parents disparaissent, on devient un peu plus vieille. On se retrouve en tête de liste parce qu'on n'est plus l'enfant d'eux. Personne ne vous dira plus deux ou trois fois par jour « Protège-toi, ma fille, et n'oublie pas, surtout, de bien te couvrir. » Alors, nous voilà de retour. Nous poursuivons avec les excellents choix de Catherine.
C'est le dernier article de Nouveau Projet. C'est une lettre Françoise David qui s'intitule « Mes six derniers mois ». L'ancienne députée de Gouin et porte-parole parlementaire de Québec solidaire nous raconte son dernier semestre et un peu plus. Le 21 novembre 2016, mon fils m'appelle. Les contractions ont débuté. Je tourne en rond dans mon appartement à Québec, fébrile. Quelques heures plus tard, je m'envole pour Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine. Ma belle-fille, Sonia, m'a fait ce cadeau inouï. « Veux-tu assister à mon accouchement? » J'en pleurais, n'en croyais pas mes oreilles. Évidemment, j'ai accepté, surprise et honorée par tant de générosité. « Ce n'est quand même pas de ta faute si tu as eu un garçon, » a-t-elle ajouté. « Vu comme ça, pourquoi pas? » La nuit du 22 au 23 novembre, nous nous relayons auprès de Sonia pour l'appuyer dans le marathon le plus éprouvant qu'une personne ait à vivre. Si seulement les hommes étaient conscients des douleurs que traversent les femmes qui accouchent, peut-être les traiteraient-ils mieux. Il n'y aura pas d'humanité sans elle après tout. C'est ce que j'écrirai à mes amis le lendemain de l'événement. Au matin, un ultime cri de Sonia et le moment inoubliable, de la naissance d'Eva nous unissent dans le bonheur. L'équipe soignante s'occupe du bébé tout en douceur. Les temps ont changé depuis 1980. J'ai accouché sous perfusion constante, 16 heures sur le dos, sans pouvoir bouger ni crier. Ce que je viens de vivre a été bien différent. Tout le personnel hospitalier a été respectueux des désirs des parents. Eva repose maintenant endormie sur le ventre de sa mère. Dans cette chambre d'hôpital à Cap-aux-Meules, il n'y a rien d'autre que l'émotion, la joie, la tendresse. Un temps en dehors du monde. Pourtant, c'est le début du monde. Je reste 3 semaines aux Îles-de-la-Madeleine avec mon conjoint. Nous vivons des moments magiques avec Eva. Nous parlons aussi. Je termine une réflexion amorcée il y a plusieurs mois. Je quitte la vie politique. J'ai longtemps et fréquemment expliqué pourquoi je posais ce geste lourd de conséquences. Qu'il me suffise de dire que la fatigue physique et psychologique de l'automne 2016, combinée à 4 années très intenses, devenait insoutenable. Et puis, ma petite fille vit aux îles, c'est joli, mais c'est loin de Montréal. L'enfance passe vite et je veux faire partie de celle d'Eva. Le 19 janvier 2017, j'annonce donc mon départ. Ça a l'air simple, dit comme ça. Durant les 2 mois précédant ma déclaration, j'ai pourtant dû assumer ma peine et celle des personnes autour de moi. J'ai ressenti des émotions très fortes, dont la peur de décevoir. Je craignais la critique de ceux qui ne supportent pas que des députés quittent leurs fonctions en cours de mandat. Je me suis aussi sentie coupable à l'idée d'abandonner les gens de Gouin. J'ai planifié mon départ dans les moindres détails, réécrit ma déclaration au moins 5 fois. Le 19 janvier, j'étais prête. Bien des entrevues plus tard, j'ai recommencé à respirer et à dormir. Les citoyens de mon comté et bien d'autres partout au Québec m'ont appuyé, encouragé, remercié. Je leur en garde une immense reconnaissance. Le 1er février, ma petite merveille vient d'avoir 2 mois. Je redécouvre le plaisir de jouer par terre avec un bébé déjà agile. Elle me sourit et je fonds. Juste ça. En avril, comme à presque chaque étape de ma vie, l'Afrique. En 1969, au terme de mes études collégiales, c'était le Rwanda. En 2001, à la suite de mon départ de la Fédération des femmes du Québec, le Mali. Et maintenant, l'Afrique du Sud, pays de Nelson Mandela. Pourquoi l'Afrique? Parce que ce continent contient le meilleur et le pire de l'humanité. J'aime ses cultures où politique, art et musique se marient avec aisance. Et j'affectionne par-dessus tout ses populations courageuses, résilientes, rieuses et accueillantes. C'est un mois de découverte, de langueur, de discussions fécondes et de repos dans des paysages idylliques. Ma visite de Robben Island, où Nelson Mandela a été emprisonné pendant 18 mois, est inoubliable. Nous passons 10 jours avec Lucie Pagé, journaliste québécoise, et son mari, Jay Nedo, syndicaliste et ministre sous Mandela. Des gens engagés, brillants, profondément solidaires. De quoi requinquer l'ex-politicienne fatiguée. Le 23 mai, ma petite merveille a 6 mois. Je suis de retour aux îles avec mon chum pour 12 jours de plaisir, de homards, de promenades en poussette, de jeux débiles qui font rire Eva, des gloussements et petits cris stridents. Ce sera désormais mon histoire, si loin de l'enfant aimé, mais si proche par la pensée, l'émotion, la hâte de la retrouver. Je n'ai pas de regrets. J'apprends maintenant à concilier ma vie, mes projets, avec cet amour inconditionnel pour un enfant des îles. À suivre.
Magnifique texte. Magnifique. Je vais poursuivre avec une entrevue faite avec Mme Fabienne Audette et ça parle de l'organisme Suicide Action. Ça a paru dans la revue FADOC en octobre. Mme Fabienne Audette est directrice générale de Suicide Action Montréal, organisme qui a reçu le prix Bénévolat Québec 2017. Suicide Action a pour mission de prévenir le suicide et ses graves impacts, offrant des services de qualité aux personnes suicidaires, leur entourage et aux intervenants qui les côtoient. Il existe donc depuis 33 ans. L'organisme a été fondé par des représentants d'organismes communautaires qui ont constaté le besoin de mettre en place des services structurés en matière de prévention du suicide. On offre donc des services qui visent d'abord à prévenir le suicide, mais aussi à soutenir l'entourage des personnes suicidaires et aussi les personnes endeuillées suite à un suicide d'un proche. On a aussi des services pour soutenir les différents milieux organisés, organismes ou autres, au sein desquels peut survenir un suicide. On offre également des services de formation pour les professionnels. On a une équipe de formateurs, formatrices en prévention du suicide qui vont se déplacer pour dispenser cette formation auprès d'intervenants d'organismes communautaires, personnels d'institutions scolaires ou encore des professionnels d'établissements de santé. Les formations dispensées peuvent viser à faire en sorte que les professionnels rencontrés puissent être aptes à intervenir auprès d'une personne suicidaire ou encore, plus simplement, à faire en sorte que les personnes puissent agir comme sentinelles pour repérer dans leur milieu les personnes qui pourraient avoir des pensées suicidaires et pour les référer vers les bonnes sources. Ce site d'action Montréal compte 249 bénévoles. C'est très clair que nous entendions orchestrer l'ensemble de nos services autour de l'engagement bénévole. Donc, depuis le tout début, les bénévoles sont au cœur de nos actions et de nos services. C'est sans doute ce qui a fait que nous ayons reçu le prix Hommage Bénévolat Québec dans la catégorie Organisme. Ce prix est venu reconnaître l'exercice et l'expertise que nous avons développée au fil des ans pour le recrutement, la sélection, la formation et le soutien à nos bénévoles, de même que la formation continue qu'on leur offre, ainsi que les mesures de reconnaissance qu'on a mises en place pour les remercier de leur apport. Ce site d'action reçoit annuellement près de 21 000 appels, ce qui fait une moyenne d'à peu près 60 appels par jour. C'est un gros volume d'appels. Notre centre d'intervention téléphonique avec ses 6 postes est ouvert 24 heures par jour, 7 jours semaine, et cela depuis 33 années. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que le service d'intervention 24/7, c'est le service le plus connu de notre organisme, mais c'est également la porte d'entrée pour l'ensemble de nos services. On a différents types d'appels. La moitié des appels proviennent de personnes suicidaires. On s'est donné des outils pour essayer de mesurer la dangerosité d'un passage à l'acte. Et tous les appelants qui ont une cote de dangerosité élevée font faire l'objet d'un suivi dans les jours et les semaines qui suivent. Il y a également des proches qui appellent parce qu'ils sont inquiets pour quelqu'un. Encore là, il y a un service pour les soutenir. On a également un service de soutien pour les personnes endeuillées suite à un suicide, notamment au moyen de rencontres. N'hésitez pas, pour parler à un intervenant, c'est le 1-866-277-3553. Nous poursuivons avec un autre dossier de actualité de Claire Verdier. 5 bonnes raisons de faire appel à un coach. Se faire accompagner peut s'avérer nécessaire. Il ne faut pas attendre d'être en dépression pour aller consulter un psychologue. Voici pourquoi. On pense souvent que les psychologues sont là pour les personnes qui ont des problèmes graves, mais c'est oublier que nous avons tous des blessures qui nous empêchent d'avancer dans un grand nombre de domaines. Voici quelques bonnes raisons pour vous convaincre de prendre un rendez-vous chez le psy. Faire un bilan. Se rendre chez le psychologue permet de faire le bilan tant sur le plan personnel que professionnel. On peut faire le point sur tout ce qui nous rend heureux et sur tout ce qui peut nous mettre en colère ou qui nous fait de la peine. Sur le plan professionnel, ceci nous permettra de mettre en avant vos compétences afin de devenir plus performant. Vous êtes un grand timide, cela vous handicape. Et pour faire des représentations, dites-le à votre psy. Vous aurez des outils pour affronter ces peurs. Une autre bonne raison, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Pour mieux se sentir dans la vie, il faut apprendre à se reconnaître. Il faut avoir l'humilité de reconnaître ses faiblesses sans pour autant se culpabiliser. Définir ses priorités. Définir ce qui est le plus important pour nous et notre entourage. Se rendre à la salle de sport, par exemple, c'est bien, mais encore faut-il que cela ne surcharge pas trop notre emploi du temps et que ce soit réalisable. Apprendre à gérer les conflits. Un psychologue peut vous aider à cet effet. La psy vous aidera à trouver en vous-même la force de ne pas tomber dans les pièges tendus par des personnes malveillantes de votre entourage et ils peuvent vous être utiles toute votre vie. Et finalement, pourquoi pas se rendre plus agréable. Vos amis, vos conjoints vous ont fait des reproches justifiés qui vous ont blessé. Au lieu de vous enfermer dans votre colère ou votre tristesse, tentez avec la psy d'analyser tout cela. Et vous pouvez découvrir des blessures que même vous ignorez l'existence, mais qui conditionnent aussi vos comportements. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous invitons à être avec nous la semaine prochaine. Je remercie Mathieu Tessier à la régie. Je remercie Catherine Brunet.
Merci Hélène.
Merci. Et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.
Bonne semaine.